Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un cours de Talmud, traité Psachim, page 121, Daf Kufra Falef. Bonne écoute et bon limoud.
Chatane a pigoul, ve chatane a notar. Un a parlé du pigoul et l'autre a parlé du notar, c'est-à-dire de ce qui reste d'un sacrifice. Et il faut expliquer qu'en fait, nous avons vu dans la Mishnah qu'il y a deux lois. Premièrement, que le pigoul est impur, et deuxièmement, que le notar est impur. Alors, un a expliqué la raison pour laquelle le pigoul est impur, et l'autre a expliqué la raison pour laquelle le notar est impur. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas en discussion l'un contre l'autre. La raison pour laquelle le pigoul est impur, c'est parce que on craint les kohanim que l'on suspecte. C'est-à-dire qu'il est très possible qu'une personne va venir amener un sacrifice, et que cette personne est l'ennemi du Kohen qui est de garde, et donc que c'est le Kohen, c'est ce Kohen qui va offrir ce sacrifice, et ce Kohen, pour se venger de la personne qui amène le sacrifice, va vouloir le rendre invalide, et donc va avoir une mauvaise pensée exprès. C'est pour cela que les sages ont décrété que chaque bête qui est devenue pigoule, automatiquement il rend impur les mains. Or, les Kohanim n'avaient pas peur de rendre invalide le sacrifice de leur ennemi, mais ils avaient très peur de se rendre les mains impures. Et donc, puisqu'ils avaient peur de se rendre les mains impures, alors ils ne vont pas rendre invalide le sacrifice de leur ennemi, car ils ont peur de se rendre les mains impures. Et donc, c'est pour cela que les sages ont décrété une impureté sur les bêtes qui ont le statut de pigoul. Et l'autre vient expliquer la raison pour laquelle le notar, ce qui reste d'un sacrifice après le délai duquel on a le droit de le manger, pourquoi ça c'est impur? Lui vient nous dire « Mishum atle keuna » à cause des Kohanim qui sont paresseux. C'est-à-dire que l'on craint que les Kohanim ne se dépêchent pas de manger la viande du sacrifice en temps voulu et la laissent pour plus tard, se diront « on la mangera plus tard », etc. Et ils vont en venir à en laisser. Donc c'est pour ça que les sages ont décrété que ce qui reste d'un sacrifice devient impur, car les Kohanim, à ce moment-là, vont avoir peur de se rendre les mains impures en devant jeter ce qui reste du sacrifice, et donc ils vont le manger rapidement. Par contre, le seul point sur lequel il y a une discussion entre Ravuna et Rafriza, c'est à partir de quelle quantité de viande de sacrifice cela devient impur. Un dit à partir de un kazaïd, une quantité de un kazaïd, et l'autre dit à partir d'une quantité de un kabetza. Et c'est ce que la Gemara explique immédiatement. Man detane a pigoul, celui qui rapporte son explication à propos de pigoul, mishum chshade kuna, son explication est à cause des kohanim que l'on suspecte, comme nous venons de l'expliquer. Man detane a notar, celui qui rapporte son explication à propos de notar, mishum atzle keuna, c'est à cause des kohanim qui sont paresseux, comme nous venons de l'expliquer. Chadamar kazaït ve chadamar kabetza, par contre, un a dit à partir d'un kazaït et l'autre a dit à partir d'un kabetza, sur ce point-là, ils sont en discussion. Quelle est leur discussion? Mande Amar Kazaït, celui qui a dit à partir d'une quantité d'un Kazaït, qui est Isuro, lui, il apprend comme la quantité de viande minimale qui devient interdite. La quantité minimale de viande qui devient interdite, c'est une quantité de un Kazaït. Et donc, à partir de cette quantité-là, la viande devient aussi impure. Ou Mande Amar Kabetza, et celui qui a dit à partir de la quantité de Kabetza, Ketumato, lui, il apprend de la règle générale, qu'en règle générale, pour que de la nourriture puisse rendre impur quelque chose d'autre, il faut qu'elle ait une quantité minimale de un kabetza. Donc lui, il apprend que de même que toute nourriture pour rendre impur, il faut qu'elle ait une quantité de un kabetza. De même, le notar ou le pigoul, pour être impur, il faut qu'il ait une quantité de un kabetza. La Mishnah nous dit, birer birkat a pesach, patar et shel zevach. Il faut savoir qu'avant de manger un sacrifice, on récitait une bénédiction. La bénédiction avant de manger le sacrifice de Pessah, Asher kideshanu bemitzvotav, vetivanu al achilat psachim. Béni soit Dieu Hashem qui nous a sanctifiés par ses commandements et nous a ordonné de manger des sacrifices de Pessah. Et la bénédiction avant de manger un sacrifice rémunératoire, Asher kideshanu bemitzvotav qui nous a sanctifiés par ses commandements, Betsivanu al-Achilat Shamim, et nous a ordonné de manger des sacrifices rémunératoires. Et maintenant la Mishnah nous dit que s'il a récité la bénédiction sur le sacrifice de Pessah, Patar et Chelzevar, en cela il se rend quitte de son obligation de réciter la bénédiction sur le sacrifice rémunératoire, c'est-à-dire sur le sacrifice de la fête qui accompagne le sacrifice de Pessah. Par contre, Birer et Chelzevar, s'il a resté la bénédiction sur le sacrifice du la fête qui accompagne le sacrifice de Pessah, lo patar et shel Pessah, il ne s'est pas rendu compte de son obligation de réciter la bénédiction aussi sur le sacrifice de Pessah. Divrei Rabbi Ishmael, ce sont là les paroles de Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva, mais Rabbi Akiva dit, lo zu poteret zu, ve lo zu poteret zu. Ni cette bénédiction rend quitte de l'autre bénédiction, ni celle-là rend quitte de la première bénédiction. C'est-à-dire, ni celle de Pessah rend quitte de la bénédiction du rémunératoire, et ni la bénédiction du rémunératoire rend quitte de la bénédiction de Pessah. Et la Gemara explique, lorsque tu voudras dire, c'est-à-dire lorsque tu voudras expliquer la discussion entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva, alors il faudra dire, les divrei Rabbi Ishmael, d'après Rabbi Ishmael, zrika bichlal shficha, le fait de jeter est inclus dans le fait de verser. Velo shficha bichlal zrika, mais le fait de verser n'est pas inclus dans le fait de jeter. C'est-à-dire qu'il y avait deux façons d'offrir le sang d'un sacrifice sur l'autel. La première façon, c'était de le jeter de loin. Et la deuxième façon, c'était de le verser de proche. Lorsqu'on le jette de loin, on n'a pas besoin de faire attention que le sang arrive jusqu'à la base de l'autel. Par contre, lorsqu'on vient le verser de proche, il faudra faire attention de verser le sang et que le sang arrive jusqu'à la base de l'autel. Or, le sang du sacrifice de Pessah était offert en le versant sur l'autel. Le sang du sacrifice rémunératoire était offert en le jetant. Maintenant, d'après Rabbi Ishmael, nous apprenons donc de là que celui qui a offert le sang d'une bête dont le sang devait être jeté sur l'autel et que lui, il a versé ce sang, alors ce n'est pas grave car lorsqu'on verse, ça inclut aussi le fait de jeter. Par contre, le cas contraire, ce n'est pas valide. Si l'on jette le sang d'une bête dont le sang aurait dû être versé sur l'autel, alors à ce moment-là, ce n'est pas valide. Et donc c'est ce que l'Agma nous explique, que d'après Rabbi Ishmael, étant donné que le sang d'un sacrifice rémunératoire devait être jeté, et le sang du sacrifice de Pessah devait être versé, et que si l'on verse le sang d'un sacrifice dont le sang devait être jeté, c'est aussi valide. Donc c'est pour cela que lorsqu'on récite la bénédiction sur le sacrifice de Pessah dont le sang est versé, on se rend quitte de son obligation même sur le rémunératoire dont le sang est jeté, car c'est comme si en fait on versait aussi le sang du rémunératoire, et donc c'est inclus dans le sacrifice de Pessah. Par contre, le cas contraire, non. Pourquoi? Parce que lorsqu'on jette le sang d'une bête dont le sang devait être versé, ce n'est pas valide. Et donc, puisque le sang du sacrifice de Pessah devait être versé et le sang du rémunératoire devait être jeté, si l'on récite la bénédiction sur le rémunératoire dont le sang est jeté, on ne peut se rendre quitte de son obligation de bénédiction sur le sacrifice de Pessah dont le sang était versé. Les divrei Rabbi Akiva, par contre, d'après Rabbi Akiva, lo shficha bichlal zrika velo zrika bichlal shficha. Nous pouvons dire que verser, c'est inclus dans jeter, et jeter, c'est inclus dans verser. C'est-à-dire que ce sont deux choses complètement différentes. Et une bête dont le sang doit être jeté, si on l'a versé, ce n'est pas valide. Et vice-versa, une bête dont le sang doit être versé, si on l'a jeté, ce n'est pas valide. Et donc, c'est pour cela que ni la bénédiction du sacrifice de Pessah rend quitte de la bénédiction du rémunératoire, ni la bénédiction du rémunératoire rend quitte du sacrifice, de la bénédiction du sacrifice de Pessah.
Vous êtes en plein cours de Guémara avec Torah Box. Et n'oubliez pas, chaque mot d'étude équivaut à accomplir les 613 mitzvot.
Et nous passons à la page suivante, Daf Kuf Kaf Alef Amud Bet. Étant donné que nous avons parlé de deux bénédictions, maintenant la Guémara rapporte un autre sujet dans lequel aussi il y a deux bénédictions. Rab Shamlai Ikla Lepidyon Aben. Une fois, Rab Shamlai s'est trouvé à un endroit où on a procédé au rachat du premier-né. Il y a une loi qui nous dit que tout premier-né qui naît à un Ben Israël, un Israël, quelqu'un qui n'est pas Cohen ou qui n'est pas Lévi, alors ce premier-né devra être racheté du Cohen. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, HaKadosh Baruch Hu a sanctifié tous les premiers-nés pour les travaux saints. Et donc maintenant, ce premier-né, en quelque sorte, appartient au Cohen. Et nous, on devra le racheter du Cohen. Et donc Reb Shamlai s'est trouvé à un endroit où on a procédé au rachat du premier-né. Bon, miné, et ils lui ont posé la question. Pshita alpidion aben. C'est évident que lorsqu'on procède au rachat du premier-né, que la bénédiction, asher kedeshanu bemizotav, vetivanu alpidion aben, qui nous a sanctifiés par ses mizot, et nous a ordonné de le rachat du premier-né, avi aben mevarer, c'est le père de l'enfant qui devra réciter cette bénédiction, car c'est lui qui rachète le premier-né du Kohen, donc c'est lui qui fait la mitzvah. Par contre, la bénédiction, Baruch she'echianu vekiemanu vegianu lazman hazeh, béni soit celui qui nous a fait vivre et exister et arriver à ce moment-là, c'est qui l'a récité cette mitzvah? Kohen Mevarer ou Avi Aben Mevarer? Est-ce le Kohen auquel on rachète le premier-né qui récite cette bénédiction, ou Avi Aben Mevarer, ou est-ce que c'est le père de l'enfant qui récitera cette bénédiction? Quel est le doute? Kohen Mevarer de Kamateana Aleyade. C'est le Kohen qui récitera cette bénédiction, car un profit arrive entre ses mains. Maintenant, il reçoit de l'argent, puisqu'on lui rachète le premier-né. Ou Avi Aben Mevarer, ou est-ce que c'est le père du premier-né qui devra réciter cette bénédiction? De Kaavid Mitzvah, car lui, il accomplit une mitzvah. Lo Ava Biyade. Rab Shamlaï ne savait pas à quoi répondre. Ata, Shail Be Midrasha. Alors, il est venu, il a posé cette question à la maison d'études. Amroulé, ils lui ont dit, Avi Aben Mevarer Shtaï. C'est le père de l'enfant qui récite les deux bénédictions. Veilcheta, et la loi est fixée, Avi Aben Mevarer Shtaï, que c'est le père de l'enfant qui récite ces deux bénédictions. Adran alach arve psachim, veslik alach masekat psachim, adran alach arve psachim, veslik alach masekat psachim, adran alach arve psachim, veslik alach masekat psachim. Nous avons fini ici le dernier chapitre de Masekat Psachim arve psachim, et nous avons fini ici aussi la Masekat Psachim. Baruch Hashem.
Nous espérons que ce cours a été apprécié. Retrouvez sur le site torah-box.com gratuitement un cours sur chaque page du Talmud, ainsi que le Daf Hayomi quotidiennement en vidéo.